Chapitre 12. L'affreux pansement accroché à chacune des deux joues de Marianne Ogresse lui écrasa le nez. Une allure de boxeuse, pensa-t-elle, ou de cougar sortant d'une clinique spécialisée dans la chirurgie esthétique. Elle avait un mal fou à supporter le regard des 15 mecs braqués sur elle, et en particulier, pour des raisons différentes, celui de JB et de Cabral. Impossible pourtant d'échapper à ce débriefing. Avec la cavale de Timo Soler, elle devait engager le maximum d'hommes sur l'affaire, y compris des agents arrivés depuis moins d'un an. Et il était indispensable que tous possèdent le même niveau d'information sur l'affaire du braquage de Deauville. Elle avança vers le centre de la pièce, résignée. Lorsque Marianne s'était vue pour la première fois dans le rétroviseur de la Mégane, sur le pont de l'écluse François Ier, le nez pissant le sang, elle en aurait pleuré. C'était bizarrement la première chose à laquelle elle avait pensé, avant même de songer à la cavale de Timo Soler. Combien de temps pour retrouver un visage humain ? Une semaine ? Un mois ? Plusieurs, si son nez était cassé ? Autant de jours perdus sur son compte à rebours personnel, parce que trouver un mec capable de lui faire un môme avec un tel pif, ça tourne à l'obsession, ma vieille. La commandante se raisonna et introduisit sa clé USB pendant que les dossiers circulaient parmi les policiers. D'ailleurs, son nez n'était pas cassé. La Rochelle avait été plutôt rassurant lorsqu'il l'avait examiné sur les quais, au milieu des dockers et des marins, qui n'avaient rien d'autre à foutre que de l'observer comme un clandestin sorti d'un conteneur. Pas même besoin de points de suture, avait ajouté le médecin. Seulement un gros hématome qui disparaîtrait en quelques jours. La Rochelle s'était au moins rendue utile pour ça. Le chirurgien avait garé sa Saab 9-3 face à l'écluse moins de 3 minutes après la disparition de Soler. Et Marianne, sitôt pensée, s'était défoulée sur lui, allant même jusqu'à le menacer d'ouvrir une enquête pour entrave à la justice. Parce que c'était tout de même un peu gros, non, son histoire de GPS qui n'indiquait pas les quais du port. Et s'il avait traîné exprès ? Et s'il avait délibérément cherché à ce que Timo Soler leur échappe ? C'est Papy, qui pourtant ne portait pas La Rochelle dans son cœur, qui l'avait calmé en la tirant à l'écart de la foule. « Du calme, Marianne », avait-il chuchoté. « Le Toubib nous a donné le lieu et l'heure exacte. Timo Soler était présent au rendez-vous. On n'avait plus qu'à le coincer. C'est nous qui avons merdé. » Il avait raison. La Rochelle n'avait pas à endosser leur incompétence. D'ailleurs, le chirurgien n'avait pas quitté une fois son sourire, plus amusé qu'apeuré par la noria de flics qui gravitait autour de lui. « Ok, papy », avait marmonné Marianne entre ses dents. « On réglera ça plus tard. » Son adjoint avait raison, au fond. Il fallait ménager le chirurgien, on pourrait encore avoir besoin de lui. La vilaine plaie ouverte que traînait Timo, c'était un peu son œuvre personnelle. Marianne avait pourtant ruminé jusqu'au retour au commissariat. Aujourd'hui, à cause d'un connard de Toubib, j'ai laissé filer un criminel et je suis défigurée. Envie de tuer. J'ai attrapé le flingue à ma ceinture et j'ai... Elle n'avait guère d'imagination pour inventer une suite drôle ou étonnante. En tout cas, beaucoup moins que les internautes d'EnvieDeTuer.com, qui rivalisaient d'astuces pour imaginer les pires façons d'exécuter les emmerdeurs du quotidien. La règle de ce site idiot était simple. Présenter quelqu'un qui vous pourrit la vie au point de déclencher une envie de le tuer et décrire un passage à l'acte virtuel, si possible jubilatoire, émouvant ou pathétique, validé ou non par le jury des lecteurs connectés. La version 2.0 de videmerde.com. Une façon comme une autre pour les frustrés velléitaires anonymes de se défouler sans passer à l'acte. Et puis, pensa la commandante, d'une certaine façon, ce site avait changé sa vie. Elle se força néanmoins à le chasser de son esprit et lança le diaporama. Elle vit avec soulagement les regards délaisser son visage pour se braquer sur le plan de Deauville. Marianne avait commandé à Lucas Marouette, un stagiaire qui s'ennuyait au commissariat avant de commencer son service actif, une animation 3D sur Google Street View. C'était un jeu d'enfant, paraît-il, si on savait télécharger les applications de base. Autant se mettre à la page. Ces reconstitutions virtuelles étaient désormais le gadget préféré des juges d'instruction. « Nous sommes le mardi 6 janvier 2015 », commença Marianne. « Il est 11h12. Le temps est froid et venteux. Presque personne ne circule dans les rues de Deauville. Deux motos s'arrêtent au rond-point central de la ville, entre la rue Eugène Colas et la rue Lucien Barrière, au cœur de la station, à deux pas du casino. Au même moment, un couple enlacé marche sur le trottoir, élégant. Lui porte un chapeau Scotland en feutre gris. Elle a les cheveux cachés sous un foulard de soie. Impossible de distinguer leur visage sur les caméras de télésurveillance dont la ville est truffée. Sur le vidéorama, deux silhouettes stylisées, bleues et rouges, sans vêtements ni visage, marchaient dans la rue commerçante de Deauville, dont on distinguait chaque enseigne de luxe, reproduisant à l'identique la description de la commandante. Alors que les deux motards se garent, le couple se sépare. Lui entre dans la boutique Hermès et elle chez Louis Vuitton. Tout va alors très vite. Au moment même où les deux motards, armés de Maverick 88, pénètrent respectivement dans les deux principales bijouteries de la rue Eugène Colas, Gauthier-Poliet et Blot, l'homme au Scotland sort un Beretta 92 et braque les deux vendeuses d'Hermès. La femme fait de même chez Vuitton. Il ne leur faut que 2 minutes pour remplir 4 sacs, un chacun. Ils savent exactement ce qu'ils cherchent, prennent principalement des objets facilement transportables. Montres, bijoux, foulards, ceintures, portefeuilles, sacs, lunettes. Quelques pièces de collection plus rares. Leurs gestes sont précis et minutés. Ils sortent tous les quatre dans la rue Eugène Colas, exactement à la même seconde. Les deux motards remettent leurs sacs à la femme. L'alerte est déclenchée à ce moment-là. Le commissariat n'est qu'à 700 mètres, au bout de la même rue. Un flic qui sortirait fumer une clope pourrait apercevoir les deux motos. Sur Street View, les maisons normandes à colombage défilèrent en accéléré, comme filmées caméra sur l'épaule, avant que l'image s'arrête sur les 4 personnages esquissés. Marianne poursuivit. Je passe sur les commentaires ultérieurs de la presse, le culot des braqueurs, leur inconscience même. On en reste au fait. En réalité, leur coup était parfaitement monté. Les deux motos remontent très vite la rue Eugène Colas, presque jusqu'au commissariat, mais tournent 250 mètres avant, place de Morny. L'objectif était tout à fait clair, faire diversion. Obliger la police à les prendre en chasse, alors que les deux complices fuyaient avec le butin. Leurs motos, 2 Munch Mammouth 2000, étaient en théorie suffisamment puissantes pour distancer les voitures de police. « Pas qu'en théorie », ricana un flic dans la salle. « Nous sommes d'accord », admit Marianne. Cela confirme que le plan des braqueurs était parfaitement au point. Sans être des professionnels, ils avaient dû mettre un sacré temps à le préparer, à repérer les lieux, à minuter le tout. Sauf que les braqueurs n'ont pas eu de chance. Google Street s'affola encore. Un champ de course désert, entouré de villas cossues, fut projeté en plein écran. Une patrouille de police circulait en ville à cet instant précis. Elle longeait l'hippodrome, boulevard Mauger. Elle s'est immédiatement positionnée pour intercepter les motards. Vous connaissez la suite, je suppose. Sur l'écran, l'alignement de maisons en 3D s'effaça pour laisser la place à des clichés. De très gros plans. Du sang sur le trottoir. Un casque dans le caniveau. Un des motards tire le premier. Nos hommes répliquent. Le second motard, celui qui n'a pas encore fait feu, est touché. Sa moto se couche sur lui, son casque cogne sur le trottoir et la visière se brise. Il est cependant partiellement couvert du tir de nos hommes par le mobilier urbain, un réverbère et un conteneur à ordures. Pendant que le premier motard continue de riposter, positionné derrière les voitures, garé sur le côté, le second ôte son casque et le laisse tomber. 2 caméras de surveillance, celles placées devant l'hippodrome et l'hôtel de la Côte-Fleurie, filment son visage. La figure floue de Timo Solaire apparut, projetée sur le mur. Il était plutôt joli garçon, un regard doux, pimenté d'une pointe de défi. Nouveau coup de feu, aucun autre homme ne sera blessé. La fusillade n'a duré que 18 secondes au total. Les deux motards font demi-tour et obliquent vers la rue du stade. Ils suivent la voie ferrée un court moment, puis quittent la route pour rejoindre les chemins le long de la Touque et se fondre dans le bocage, vraisemblablement en direction de Pont-l'Évêque. Impossible de les suivre. Malgré les barrages, on ne les reverra jamais. La commandante marqua une courte pause et imperceptiblement baissa les yeux. À l'exception de Timo Solaire, pour la première fois cet après-midi. Marianne cliqua sur la souris. Le centre-ville de Deauville défila à nouveau au rythme de la course des deux silhouettes bleues et rouges. Cependant, la manœuvre de diversion n'a que partiellement fonctionné. C'est le grain de sable dans le plan des braqueurs. Dès que l'homme au Scotland sort de la boutique Hermès, Florence Lagarde, la directrice du magasin, ne se contente pas de déclencher l'alarme. Elle a l'inconscience de s'aventurer jusque sur le trottoir de la rue Eugène Colas, portable collé à l'oreille. Moins de 5 secondes plus tard, elle est en communication avec le lieutenant Gallois du commissariat de Deauville et a la présence d'esprit de lui préciser qu'il y a 2 groupes de braqueurs. Les motards qui foncent dans leur direction, mais aussi 2 autres fugitifs qui filent dans l'autre sens à pied. Là aussi, tout va très vite. Moins de 2 minutes en tout. Toujours armé d'un revolver, l'homme au Scotland s'engage dans la rue Lucien Barrière, se retournant fréquemment, alors que la femme au foulard, encombrée des 4 sacs, court vers la plage. Leur stratégie semble claire. La femme doit aller mettre à l'abri le butin, pendant que l'homme couvre ses arrières et évite un acte d'héroïsme de la part d'un des commerçants. Lorsqu'il parvient à la hauteur du palais des congrès, la femme a déjà rejoint la rue de la mer et tourné à gauche, à la hauteur des planches. Elle passe devant la caméra de surveillance du casino à 11h17. 1 minute plus tard, la même caméra la filme à nouveau, courant en sens inverse, sans les sacs. La commandante marqua une courte pause, comme pour bien faire comprendre à ses hommes à quel point ce détail précis, la brusque disparition du butin, apparaissait capital, avant de continuer. Au même moment, l'homme au Scotland, qui protège la retraite de la femme, se retrouve coincé par 2 policiers au bout de la rue Lucien Barrière, dans la partie piétonne. On connaît alors précisément chaque détail de la fusillade qui va suivre. La femme crie à l'homme de la rejoindre. Il sprinte, il est touché une première fois par une balle dans la jambe, mais réplique. Il blesse le sous-brigadier Delattre, pleine rotule. Il s'en sortira, mais boitera toute sa vie. Ils atteignent la rue de la mer, mais subissent alors le feu croisé de 2 patrouilles qui arrivent en sens inverse. L'homme et la femme progressent encore le long de la rue, se faufilant entre les voitures. Un de nos hommes, Savigna, est à nouveau touché à l'épaule, sans gravité. L'homme et la femme tentent alors de traverser la rue pour atteindre les bains pompéiens, en face, côté plage, tirant au jugé. Quelques touristes se promènent au bord de la mer, principalement des grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants. Les policiers ne prennent aucun risque. Les 2 fugitifs sont abattus dès qu'ils sortent à découvert, presque simultanément, au milieu de la rue. Rideau. Un nouveau clic. 2 photos s'affichèrent. Un homme et une femme. Cyril et Ilona Lukovic, annonça Marianne. Nos Bonnie and Clyde de l'estuaire. Cyril est originaire de la région. Il possède un casier assez chargé. Trafic de drogue d'abord, dès l'âge de 15 ans, puis il s'est spécialisé dans le cambriolage des résidents secondaires du pays d'Auge. Il écopera au total de 26 mois de prison, répartis sur 4 ans et 3 jours. Il a rencontré sa femme, Ilona Adamiak, très jeune, à Potigny, un village où ils ont grandi tous les 2 à 20 kilomètres au sud de Caen. Ils dealaient déjà ensemble au collège. Ilona le secondait pour les cambriolages. C'est généralement elle, une gamine dont personne ne se méfiait, qui s'occupait du repérage des lieux. Marianne zooma sur les 2 visages des braqueurs abattus en pleine rue. Des clients idéaux, apparemment. Sauf qu'ils se tenaient plutôt tranquilles depuis quelques années. Ils se sont mariés en 1997. Cyril s'était reconverti comme docker au Havre d'abord, puis dans d'autres ports un peu partout dans le monde. Elle le suivait. Il est revenu au port du Havre à la fin de l'année 2013. À part quelques CDD, il n'a pas retrouvé de boulot. Faut croire que ça a été un motif suffisant pour qu'il replonge. La commandante prit le temps de laisser afficher quelques secondes supplémentaires les photos de Cyril et Ilona Lukovic. Côte à côte, jeunes, souriants, on aurait même pu croire au premier slide d'un diaporama projeté pour un mariage ou un anniversaire. Il ne manquait plus que les violons d'Elton John ou d'Adèle en bande-son pour imaginer les diapos suivantes. Cyril et Ilona bébés dans les bras de leurs parents, au fond d'une poussette, sur un vélo, déguisés en Jedi et en princesse Leia, habillés en mariée sous une pluie de grains de riz, déshabillés et bronzés sur la plage de Deauville. Marianne cliqua. Nouvelle photo. 2 cadavres allongés face aux planches, une foule de badauds autour. Vous trouverez leur bio détaillé dans le dossier. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette affaire, mais pour l'essentiel, depuis ce braquage, on peut résumer l'enquête en 3 questions. Une autre diapo, un clic. Des lettres clignotèrent jusqu'à former des mots, puis une phrase. Rien à dire, ce jeune stagiaire, Lucas Marouette, savait manier un logiciel. À voir s'il était aussi doué sur le terrain. Elle aurait bientôt la réponse. Elle toussa et énonça à voix haute la question que tous les flics avaient déjà lue. « Où est caché le butin ?» D'après les commerçants de Deauville, il est estimé aux alentours de 2 millions d'euros, dont 1,5 million de bijoux et montres, 300 000 euros de maroquinerie et presque autant de fringues de luxe, lunettes et parfums. Même si ces braves commerçants ont chargé la barque pour les assurances, cela reste un joli coup, avec des marchandises pas si difficiles que ça à écouler à l'international. Mais peu importe le montant exact du butin, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont ils ont pu escamoter les quatre sacs. Ilona Lukovic a disposé de moins d'une minute pour les dissimuler, sans se faire repérer par aucun témoin, aucun plagiste, aucun portier ou voiturier du casino. Des dizaines de nos hommes ont fouillé chaque maison, vérifié chaque chambre de chaque hôtel du front de mer. Rien. Aucune trace. Il restait alors une possibilité évidente, la planque idéale pour quatre sacs. Les cabines de plage du front de mer. Pas besoin de vous faire un dessin. Ces cabines, c'est l'image mythique de Deauville. 400 cabines face à la plage, dont chacune porte le nom d'une star hollywoodienne et appartient à une personnalité discrète mais richissime de la bourgeoisie parisienne. À ce stade de l'enquête, nous n'avions pas le choix. Il fallait toutes les ouvrir jusqu'à la bonne pioche. Marianne leva les yeux au ciel. Nos collègues de Deauville ont mis 5 semaines à en voir le bout. La mairie a ouvert tous les parapluies qu'elle pouvait, plutôt des parasols multicolores d'ailleurs, et exigé une commission rogatoire signée par un juge pour chacune de ces minuscules cabines, fermées le plus souvent par un simple cadenas. Un travail titanesque de diplomatie. La commandante haussa brusquement le ton. Pour rien. Strictement pour rien. Aucune trace de la Camelot à 2 millions dans aucune de ces cabanes. Elle fit quelques pas dans la salle. La trentaine de flics assis l'écoutait avec une attention d'élève craintif face à un prof trop sévère. Pas un n'avait allumé sa tablette ou son portable. Raisonnons différemment alors. Il y a une autre façon de s'interroger sur la disparition du magot. S'intéresser à l'attitude étrange de Cyril et Ilona Lukovic. Comment espéraient-ils s'enfuir, même si l'effet de diversion provoqué par les deux motos fonctionnait? Même si aucun flic ne les interceptait face aux planches? Même si, grâce au chapeau Scotland et au foulard, ils n'étaient pas identifiés par les caméras de surveillance? Deauville n'est pas Paris, Anvers ou Milan. Dès la première alarme, les barrages de police auraient bloqué toutes les sorties de la ville, auraient fouillé chaque voiture qui en sortait, contrôlé chaque identité. Cyril et Ilona auraient bien entendu pu attendre tranquillement quelques jours à Deauville, que tout se tasse. Mais on n'a retrouvé aucune location, aucun appartement, aucune chambre réservée qui ait pu leur correspondre. En bref, sur cette première question, mystère complet. Clic. Seconde question. Les lettres s'affolèrent avant de s'ordonner sagement. Où se cache Timo Soler? L'index de la commandante, sans même qu'elle s'en rende compte, joua avec le pansement sur son nez. Seule certitude, depuis ce 6 janvier, Soler est blessé. Assez gravement blessé, d'après les experts en balistique. Sans oublier l'effort produit pour relever la moto lors de la fusillade. Inutile de vous dire que tous les hôpitaux et cliniques du coin sont sous surveillance étroite depuis le braquage. Nous n'avions aucun doute sur ce plan. Si Timo Soler n'avait pas agonisé dans un coin, abandonné ou achevé par son complice, il finirait par refaire surface, comme un gosse entêté qui, à force d'avoir mal, finit par avaler ses médicaments. Quand je dis « nous », je parle de tous les commissariats de l'estuaire, de Caen jusqu'à Rouen. Marianne afficha un léger sourire qui lui tira sur la cloison nasale. Et c'est notre maison qui a tiré le gros lot. Soler se cachait au Havre. Nul besoin de vous dire qu'après notre fiasco de cet après-midi, on va devenir la risée de tous les collègues de la région. On a intérêt à le coincer très vite, le Timo. Je veux 10 hommes qui patrouillent en permanence dans le quartier des Neiges, jour et nuit. La commandante souffla. Avant-dernière diapositive, annonçait le décompte en bas de l'écran. Pas trop tôt. Marianne ne parlait que depuis 20 minutes et avait épuisé toute son énergie. Dire que les profs devaient tenir ainsi 8 heures par jour. Qui est le 4e braqueur? Elle toussa encore pour s'éclaircir la voix. Nous n'avons aucune certitude. Le motard qui accompagnait Timo Soler a conservé son casque pendant toute la fusillade. Nous disposons cependant de forts soupçons. Dernier clic. Une photo. Celle d'un homme d'une quarantaine d'années au visage anguleux. Ses sourcils tombants, un peu trop fournis, et le duvet mal rasé au-dessus de ses lèvres formaient une sorte de X brun, barré par un nez fin et droit, éclairé par deux yeux vert clair, presque translucides, plus proches de ceux d'un serpent que d'un chat abyssin. Deux autres détails sautaient aux yeux. Une impressionnante boucle d'oreille argentée plantée dans le lobe de son oreille gauche et une petite tête de mort tatouée dans le bas de son cou. « Alexis Zerda », précisa la commandante. Amis d'enfance de Cyril, Ilona Lukovic et Timo Soler. Tous les quatre ont grandi à Potigny, dans la même classe, ou presque, depuis la maternelle. Même parc de jeux à explorer, même centre aéré pour s'emmerder, même arrêt de bus à squatter. Mais des quatre, Zerda est d'évidence le plus dangereux. S'il n'a été condamné qu'à des peines mineures, il est le principal suspect dans plusieurs affaires d'homicide. En 2001, lors du casse de la BNP de la Ferté-Bernard, il est soupçonné d'avoir ouvert le feu sur une patrouille de gendarmerie. Un jeune flic marié et un père de famille sont morts sur le coup. Deux veuves et trois orphelins. Deux ans plus tard, même soupçon à propos de l'attaque du fourgon du carrefour d'Hérouville. 5h30 du matin, un vigile et une femme de ménage abattus d'une balle dans la tête. Aucune preuve, aucune empreinte, aucun témoin, mais aucun doute non plus pour les enquêteurs, Zerda a fait le coup. Il ferait un cerveau très présentable pour le braquage de Deauville, même si on ne dispose contre lui d'aucun début de preuve. On le surveille discrètement. Il voyage beaucoup entre Le Havre et Paris. Pour l'instant, on ne peut rien contre lui, sinon le serrer de suffisamment près pour qu'il ne puisse pas prendre le risque de se balader avec un foulard Hermès autour du cou, une Breitling au poignet et une valise Vuitton à la main. La commandante souffla, visiblement soulagée. Son nez la démangeait, mais elle résista à l'envie de jouer avec le pansement. Voilà, les garçons, une équation à trois inconnus. Et toute la police de Normandie compte sur nous pour au moins résoudre la deuxième. JB connement se mit à applaudir. Tous les autres suivirent, tout aussi stupidement. C'était sans doute une marque de sympathie et d'estime, un soutien appuyé à leur patronne après l'échec de l'arrestation de Timo Soler sur le port. Marianne aurait dû le prendre comme ça. Sauf qu'à l'inverse, elle pensait qu'elle devait avoir l'allure d'une grosse dinde au visage rougi et au nez épaté, et qui, cerise sur le pudding, pensait moins à cet instant à ce Timo Soler en cavale qu'au dessin d'un gosse de 3 ans, au discours étrange d'un psy hypnotisant et, surtout, au rapport que devait lui faire avant la fin de la journée Lucas Marouette, le stagiaire qu'elle avait discrètement envoyé fouiller du côté de Maneglise.